va utiliser un langage qui n'est pas commun, qui n'est pas habituel. On connaît Jésus-Christ comme un homme qui a vécu sur la terre, mais il emploie un langage parfois philosophique. Dans le premier exposé biblique, on a vu ensemble que Christ est le Logos, ou en français le Verbe, c'est-à-dire qu'il est à l'origine de l'univers, et qu'à l'origine de l'univers, il y a une personne qui a pensé l'univers dans lequel nous vivons. Et c'est important parce que ça veut dire que tout ce qui se passe a un sens, n'est pas accidentel. Et donc, ce logos-là, ce verbe-là, la parole de Dieu, nous dit Jean, est né, est venu, s'est incarné à Noël et on a pu le connaître comme un être humain. Deuxièmement, on a vu la semaine dernière que cette parole est la vie, la véritable vie, la vie qui est à l'origine de toute existence dans l'univers. C'est ce que les Écritures nous disent, c'est que le Christ est le Créateur, et ensuite de ça, il s'est incarné, il est venu sur la terre pour nous donner la vie. Il donne la vie à l'univers, à tout ce qui existe dans l'univers, mais il vient sur la terre pour nous donner une vie plus réelle et tangible dans nos propres cœurs, chacun d'entre nous. Et ce matin, on va parler ensemble de la lumière, parce que Noël, c'est la fête de la lumière. Et on va aller plus loin encore avec ce que Jérémie a abordé dans cette question de la lumière avec les enfants. Quelle est cette lumière qui vient dans le monde? Et la semaine prochaine, on termine la série. Alors, on vous invite à être avec nous le 25 décembre, de réussir à vous tirer de votre lit, d'arriver ici pour 10 heures dimanche prochain. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce Christ-là est le Fils unique de Dieu, d'une manière absolument unique et incomparable. Et on a besoin de toutes ces choses-là, alors qu'on se prépare à célébrer Noël, pour aller plus que dans une semaine de repos, dans une semaine de partage, mais dans une véritable semaine de ressourcement spirituel. Alors, j'aimerais aller dans un mot de prière, et ce matin, en priant pour nous, chacun d'entre nous, si vous êtes à l'aise, vous fermerez les yeux avec moi, on va prier, mais vous me permettrez aussi de prier pour une famille de l'Église. On est vraiment une famille en Église, et on veut prier pour la famille Prévost. Notre sœur Céline Prévost, sa famille qui habite plusieurs d'entre eux à Mont-Laurier, traverse un drame. Vous avez peut-être vu le courriel passer. Donc, Céline a une de ses sœurs qui habite là-bas et sa nièce, à Mme Prévost, ainsi que son conjoint à elle et leur petit-enfant de quelques mois sont morts dans un accident de voiture cette semaine. D'accord? Donc, c'est vraiment un drame juste à la veille des fêtes et il y avait déjà eu des décès dans la famille. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble parce que pendant qu'on est en train de se réjouir, il y en a d'autres qui sont aussi dans la tristesse et on va être là ensemble les uns pour les autres. D'accord? On va prier. Père éternel, Noël, c'est la fête de la lumière. C'est la fête de l'espoir, de cette lumière qui est venue au milieu de nos ténèbres, qui est venue éclairer tous les hommes, qui est venue éclairer nos cœurs dans la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, alors qu'on se prépare à fêter ensemble, alors qu'on souligne qu'on adore le Christ qui est venu parmi les hommes, ce matin, Seigneur, on veut te demander d'apporter ta lumière dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos familles, dans chacune de nos vies, pendant la période des fêtes. Mais on veut porter une attention particulière à la famille de M. et Mme Prévost qui traversent une épreuve vraiment terrible à la veille des fêtes comme ça, Seigneur. Il y a des moments de souffrance dans la vie humaine qui ne tolèrent aucune explication raisonnable, Seigneur. C'est pas que les explications ne sont pas là. C'est que notre cœur ne peut supporter ces choses-là, Seigneur. Parce qu'on est fragile, parce qu'on aime la vie, parce qu'on aime nos proches, parce qu'on aime les gens, ils nous sont précieux, Seigneur. Les gens qui disparaissent pour nous, ce ne sont pas des pages qui tournent, ce sont des univers qui s'effacent de nos vies, Seigneur. Et Père, on veut te demander, pendant cette période des fêtes, d'une manière surnaturelle, unique à toi, d'apporter ta lumière dans cette famille qui a vraiment le cœur dans les ténèbres, certainement en ce moment, Seigneur, avec une profonde douleur, avec un cri à l'intérieur qui, comme je le disais, qui tolère aucune explication, Seigneur. Et on te demande d'être avec eux, de les apaiser, de leur apporter, Seigneur, un baume d'une manière qui surnaturelle, qui relève de toi, Seigneur. Te prie d'aider ceux et celles qui sont chrétiens dans la famille, Seigneur, à se tourner vers toi dans ce moment de souffrance et d'apporter la lumière de Christ à travers tout cela, Seigneur. Soit avec Mme Prévost, soit avec notre sœur Céline, Seigneur, avec son mari, avec les sœurs qui sont chrétiennes dans la famille. Donne-leur la force, une force surhumaine, Seigneur, pour avoir encore une parole de grâce dans ces circonstances. Alors ce matin, on te demande d'être avec nous, Père. Viens nous parler de ton Fils, parce que chacun d'entre nous, soit en regardant le monde, soit en regardant dans nos vies, nous avons ces parts, ces zones d'ombre, Seigneur, où on a besoin de cette lumière qui apporte la vie dans nos cœurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, la lecture de ce matin se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, et c'est le verset 1 à 18. Je vais lire ça dans l'édition Louis II. Jean 1, chapitre 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Merci Stéphane. Noël, c'est la fête de la lumière. Vous allez me trouver complètement quétaine, parce que j'aime ça, pour de vrai. J'aime ça, les sapins illuminés. J'aime me promener dans une ruelle le soir qui est plein de lumière. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Il y a quelque chose de beau dans ça. Et Noël, dans son origine, représente cette fête-là de la lumière. Alors non seulement il y a quelque chose de beau, mais il y a quelque chose de profond dans ça. Notre sapin à la maison, il y a une étoile au-dessus, un peu comme notre sapin ici à l'église. Il y a une étoile au-dessus qui représente l'étoile qui a conduit les mages vers le roi des Juifs, lors de sa naissance, à Bethléem. Le mot Noël vient du latin, natalem. Ça veut dire jour de naissance. Jour de naissance, en évocation à la naissance du Christ. Alors, pendant des siècles, littéralement, les chrétiens à travers le monde entier ont célébré Noël comme étant la fête de la naissance du Christ. Puis en Occident, ça a été une fête super importante. C'est troublant de voir un peu à quelle vitesse c'est en train de s'estomper. On est en train de perdre ce sens-là. C'est vrai. Puis pour les chrétiens, il y a quelque chose de troublant dans ça. Je pense aussi que certains sociologues réalisent qu'il y a quelque chose de troublant dans cela parce que l'Occident est construit, a été bâti sur le fondement du christianisme à plein d'égards. C'est vraiment intéressant. Cette année, j'ai fait des lectures qui m'aident à comprendre un peu plus la démocratie, puis un fondement chrétien derrière cela. Le christianisme a ouvert une voie à reconnaître la dignité de chaque être humain, que tu sois né riche ou pauvre, maître ou esclave, chacun devient une personne en Jésus-Christ. On perd ces choses-là de vue. Et donc, on perd un fondement de notre société. Ça va être intéressant pour nous à travers les prochaines décennies de voir qu'est-ce que ça va produire cette perte-là de nos fondements sociaux. Mais à Noël, pour nous, c'est l'occasion de se rappeler. C'est quoi la fête de Noël? D'où ça vient? Tim Keller, excellent livre. Si vous lisez l'anglais, commandez ça. Hidden Christmas de Tim Keller, excellent bouquin. Une petite citation. En raison de l'aspect commercial de Noël, il y aura toujours une dimension très séculière à cette fête. C'est vrai, parce qu'on donne des cadeaux. Et il continue en disant, ma crainte est par contre que ses vraies origines deviennent de plus en plus oubliées par la population. Écoutez bien ceci. L'emphase sur les lumières dans la noirceur vient de la pensée chrétienne que l'espoir du monde ne vient pas du monde, mais de l'extérieur. Je vous relis ça. L'emphase sur les lumières dans la noirceur vient de la pensée chrétienne que l'espoir du monde ne vient pas du monde, mais de l'extérieur du monde. Ce matin, on va voir ensemble que Noël est une fête de la lumière qui vient éclairer le monde. Elle apporte de l'espoir dans nos ténèbres et la vie dans nos cœurs. J'ai intitulé le premier point de l'exposé « Est-ce que quelqu'un peut allumer, s'il vous plaît? » Écoutez bien Jean 1, 9, d'accord? On l'a lu tout à l'heure, mais je veux vous le relire parce que Jean fait une déclaration énorme. C'est, imaginez-vous là, en train de dire ça dans un party de bureau cette semaine, d'accord? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Juste pour le fun, là, vous essayerez de dire ça cette semaine dans un party de bureau. Hey, la gang, savez-vous d'où ça vient, Noël? J'aimerais ça juste vous dire, juste vous lire un verset qui vient de la Bible pour que vous compreniez, tu sais, il y a les cadeaux, c'est cool, on a du bon temps ensemble, mais d'où ça vient, Noël? Il y a un beau verset qui dit « Qui est Jésus? » Puis voici ce que ce verset-là dit. En parlant de Jésus, il appelle la lumière et dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Puis vous leur expliquerez, Jean est en train de dire ici qu'il y a une lumière véritable qui est incomparable avec toutes les autres lumières qu'il y a pu y avoir dans le monde et qui vient pour éclairer tous les hommes. Laissez ça pour le fun. Vous allez vous faire lapider des yeux probablement. Peut-être gentiment, il y a quelqu'un qui va venir vous dire « Hey, t'es un gars courageux ou suicidaire, je sais pas. Tu ne cherches pas d'amis. » C'est énorme comme déclaration. C'est énorme comme déclaration. Jésus est la vraie lumière, c'est lui la vraie lumière qui éclaire tous les êtres humains. Fait que je veux juste vous rappeler, tout le but de l'évangile de Jean, c'est de faire la démonstration de ça. J'ai fait exprès dans les deux derniers exposés bibliques de citer le passage qu'on trouve à la fin de l'évangile de Jean, dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout le livre a été écrit pour faire la démonstration que ce Jésus qui est né à Bethléem comme un simple homme, très humblement, était en fait beaucoup plus que ça, qu'il était le Christ, le Messie, le roi des Juifs, mais le sauveur du monde. Et que celui qui va venir à croire en lui va recevoir la vie. Une vie qui va dépasser la vie ici-bas, qui va commencer ici, mais jusque dans l'éternité aussi. Fait que laissez-moi faire quelque chose, d'accord? Noël, c'est la fête de la lumière. Puis moi, je veux péter votre bulle, puis vous parler des ténèbres. Il y a un principe en or, c'est avec les contrastes de lumière et de noirceur que tu fais ressortir les choses. Et si vous voulez saisir la lumière de Christ, si vous voulez que ça fasse du sens dans votre esprit, il faut premièrement commencer en réalisant qu'on a besoin que quelqu'un allume les lumières. Dans ce monde, dans cette vie, dans nos cœurs. La réalité est pas mal sombre. Pour certains d'entre vous, c'est sombre parce que Donald Trump a été élu. Et donc, vous dites, on est vraiment dans des temps sombres et tristes. Mais plus concrètement et plus sérieusement, cette semaine, si vous avez suivi les médias un peu, Alep, en Syrie, la réalité est sombre pour ceux qui sont à Alep, en Syrie. Et c'est pas parce qu'il y avait rien à faire puis qu'on pouvait pas sauver ces gens-là. C'est parce qu'on était occupé à faire autre chose et on a laissé ces gens-là se faire massacrer littéralement. Ils sont victimes d'un jeu de pouvoir et de l'indifférence mondiale. Pour d'autres encore, c'est la situation environnementale qui exprime le fait qu'il y a quelque chose de sombre dans le monde. Pour d'autres encore, c'est peut-être leur réalité familiale qui est sombre ou leur réalité économique ou encore leur santé qui fait que leur réalité est sombre. Pour d'autres encore, c'est simplement être capable de rêver à l'avenir. Et je pense particulièrement à une jeune génération qui, des fois, a de la difficulté à la lumière de ce qu'on voit sur l'environnement, de ce qu'on voit sur l'économie, de ce qu'on voit sur la situation dans le monde, dans la somme d'informations qu'on reçoit, une plus jeune génération qui a de la difficulté à rêver, à se projeter dans l'avenir concrètement, puis à dire, je vais réussir à construire quelque chose, à tailler ma place là-dedans, puis à me faire un petit bonheur dans ça. Et pour certains, cette ombre-là se manifeste dans ça. Maintenant, ce dont Jean nous parle dans l'Évangile de Jean, lorsqu'il parle de la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les hommes, il parle essentiellement, puis c'est probablement la chose la plus difficile à comprendre et accepter dans tout ce que je vais dire ce matin, d'accord? Il parle essentiellement, non pas de ténèbres et d'ombres qui sont à l'extérieur de l'homme, mais de ténèbres qui sont à l'intérieur du cœur humain. De tous les cœurs humains, chrétiens ou non, quelque religion que ce soit, Jean avait cette certitude, cette conviction qu'il y avait cette part d'ombre et de ténèbres. Et Jean est en train de faire allusion à un passage dans l'Ancien Testament que les chrétiens connaissent généralement assez bien. Donc, lorsqu'on pense à l'Ancien Testament, je m'en vais dans le livre d'Ésaïe, on parle de plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ, un passage prophétique qui annonçait la venue du Messie, du roi des Juifs. Et on lit dans Ésaïe 9:1. Ce passage-là, Jésus lui-même le cite dans l'Évangile de Matthieu, d'accord? Lorsqu'il va commencer son ministère, il va citer le même passage. Donc, Jean, lorsqu'il va parler de la lumière, est en train de faire référence à Ésaïe 9:1, certainement. Et voici ce que ça dit. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Maintenant, les gens qui vivaient à l'époque d'Ésaïe, lorsqu'ils ont reçu cette prophétie-là, étaient conscients qu'il y avait une part de ténèbres dans le monde, mais ils estimaient, on le sait parce qu'on sait comment les prophéties d'Ésaïe ont été reçues, ils estimaient que les ténèbres et l'ombre se trouvaient à l'extérieur d'eux, dans les circonstances, dans le gouvernement, dans les situations économiques, dans les maux sociaux. À l'époque de Jean, lorsque Jean cite ce passage et que Jésus vient dans le monde, cette société-là, la société juive qui a reçu le Messie, lorsqu'elle a reçu ce message-là, a réagi. Parce que Jésus insistait pour dire que le mal qu'il y a dans le monde vient premièrement du cœur de chaque être humain. Et ils ont très mal réagi à ce message-là parce qu'ils avaient la conviction profonde que les ténèbres qu'il y a dans le monde ne viennent pas d'une part d'ombre en moi. Mais ça vient de l'extérieur, de la société, du gouvernement, à l'époque de l'Empire romain qui est en train de nous oppresser. C'est la même chose à notre époque aujourd'hui. Lorsqu'on regarde cette part d'ombre, ces ténèbres qu'il y a dans le monde, qu'il y a partout autour de nous, notre réflexe n'est pas de dire « Tout ça, là, c'est tout en germe en moi, c'est tout présent en moi. » C'est extrêmement difficile à accepter comme réalité. Dans les Saintes Écritures, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jésus, que ce soit Jean, la Bible appelle cela le péché. La Bible appelle ça le péché. Nous, on va parler de maux sociaux, on va parler de toutes sortes de choses comme ça. Maintenant, je vais juste essayer de l'illustrer comme ça, d'accord? Juste pour faire la démonstration que les ténèbres que vous voyez à l'extérieur de vous, puis vous dites « c'est mal, c'est dur, c'est lourd », viennent en fait du cœur humain. Il y a énormément de maux sociaux, de souffrance et de ténèbres dans le monde qui sont en fait juste le fruit du cœur humain. Cette noirceur que nous voyons un peu partout dans le monde, dans les conflits, dans les guerres, beaucoup dans la pauvreté, dans la corruption, dans la profonde confusion qu'il y a au niveau des valeurs familiales, des valeurs sexuelles, identitaires. Même le fait que la vie humaine perd sa valeur à nos yeux. Tout cela, ça vient du cœur humain. C'est pas les arbres, c'est pas les cailloux, c'est pas les montagnes, c'est pas l'air ambiant qui nous rend fous. Ça vient du cœur de l'homme. Ça vient de nous, ces maux-là. Ce sont pas les arbres, les oiseaux qui nous font du mal, ce sont les hommes qui mentent, qui volent, qui trichent, qui violent, qui génocident, qui abusent de leur pouvoir, qui mettent plus de valeur dans leur bien matériel que dans une relation humaine. Ce sont les hommes qui poursuivent toutes sortes d'idoles pour essayer de nourrir, d'assouvir leurs vices profonds. Et si on veut être honnête, une très, très grande part des maux sociaux et des ténèbres qu'il y a dans le monde actuellement sont en réalité le fruit du cœur humain. Ces ténèbres-là viennent du cœur humain. Et elles ne viennent pas du manque d'éducation. D'accord? Ça, c'est une autre tentation. Non, le problème, c'est qu'il y a un manque d'éducation. Écoutez, on a la mémoire courte. On a la mémoire courte. L'Allemagne était la société la plus instruite et éduquée à l'époque où ils ont mis en place le régime nazi. L'Holocauste s'est produit dans la nation la plus instruite de la Terre. Il ne s'agit pas d'un problème d'éducation. Et je suis gentil, j'ai pris une histoire loin de nous, d'accord? Pour qu'on ne se sente pas trop coupable des génocides qu'on pratique maintenant. Le problème n'est pas au niveau de l'éducation. Le problème est dans le cœur humain. Et le problème se trouve dans le fait que chacun d'entre nous, on doit répondre à la question suivante. Est-ce que j'ai besoin d'être éclairé ou pas? Parce que pour quitter cette part de ténèbres-là, pour comprendre le sens de Noël, pour que Noël devienne vraiment un sujet de joie, il faut premièrement que j'accepte que j'ai besoin d'être éclairé, que j'ai besoin de lumière. Et qu'en moi, il y a ces ténèbres-là. J'ai besoin de prendre cette décision-là. Dans Jean 1, 5, voici ce que Jean dit. « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 10, il continue en disant, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » C'est impossible de recevoir la lumière, de recevoir le message de Noël, si je n'accepte pas que j'ai besoin d'être éclairé. La tendance du cœur humain est de blâmer la société ou de blâmer les autres. Si les choses ne vont pas bien, c'est parce que c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des riches, c'est à cause des autres. Et ça, c'est le plus vieil argument de l'histoire humaine. Celui qui a brandé ça, celui qui a des droits d'auteur là-dessus, c'est Adam. C'est pas de ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas de ma faute, c'est le gouvernement. C'est pas de ma faute, c'est mon voisin. C'est pas de ma faute si j'ai des conflits, c'est de la faute de l'autre. C'est pas de ma faute si ça va mal, c'est de la faute de l'autre. Et tout le monde dit ça en cœur. Et personne n'est coupable. Personne n'est responsable. Et donc, ça demande vraiment une part d'humilité énorme de dire non, 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 non. Ce qu'il y avait en Hitler est en germe en moi, et c'est une grâce si je ne suis pas en train de pousser chacun de mes fantasmes de justice propre, chacun de mes fantasmes de colère à terme. C'est juste parce que j'ai encore un petit peu de bon sens que je garde ça à l'intérieur puis que je ne passe pas à l'action. Alors, quand Jésus est venu, la société qui l'a reçu à ce moment-là, dans la grande majorité, ont refusé d'entendre ce message-là. C'est ce qui les a amenés à le crucifier. C'était dans les desseins de Dieu, c'était dans les plans de Dieu. Le message de Noël explose dans toute sa beauté à la croix. C'est correct, ça devait se rendre là. Et ça, on va le voir la semaine prochaine. La grâce qu'on a trouvée en Jésus-Christ. Mais ce message-là n'a pas été reçu par sa culture, par sa société. Et on peut avoir l'impression que ce message-là ne trouvera jamais sa place dans notre société. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À l'époque, Jean a reconnu. Si Jean a écrit ce livre-là, c'est parce qu'il s'est arrêté et il a dit, « OK, j'arrête de blâmer tout le monde, j'ai une part de ténèbres en moi et j'ai besoin de cette lumière-là. » Puis ensuite de ça, les chrétiens, des gens ont commencé à se convertir au christianisme sous le ministère des apôtres et se sont multipliés. En quelques siècles, l'Empire romain était étaient envahis par des conversions chrétiennes. On les massacrait, on les conduisait dans des arènes, on les livrait aux lions. Et Tertullien, je le dis souvent, s'est écrié « Continuez! Chaque fois que vous tuez un chrétien, notre sang qui tombe en terre est une semence de chrétiens. » Donc, je comprends qu'on vit en Occident, puis on a l'impression, on se dit, regarde, on arrive à une époque de lumière, on va être libéré de ces pensées-là anciennes. Il ne s'agit pas nécessairement d'une libération, les amis. Et la vérité, c'est que cette lumière-là rentre très, très bien dans une société séculière. Nous, on est en train de voir une société qui avait une vision du monde très chrétienne, si je peux dire, sans dire que tout le monde était chrétien, notre vision du monde était très chrétienne. Puis on se dit, oh, le christianisme n'a pas réussi, c'est tout en train de disparaître. Vous savez quoi? La société la plus séculière au monde, c'est la Chine. D'accord? C'est la société, c'est le pays athée par excellence. C'est la Chine. Mais la vérité, c'est que depuis 1970, 1975 environ, le nombre de chrétiens grandit à un rythme de 10% par année en Chine. Intéressant, hein? C'est une société athée. Je me souviens de conversation avec une dame chinoise qui me disait « Je viens de la Chine et dans mon pays, la religion, c'est la science. » C'est très, très difficile pour nous de recevoir le message du christianisme. Mais en même temps, actuellement, il est estimé, parce que l'Église là-bas est beaucoup plus underground qu'officielle, d'accord? Mais les meilleures estimations par des organismes non chrétiens, on estime à 58 millions de Chinois qui sont chrétiens protestants, toutes les grandes familles protestantes réunies. On estime que si le rythme continue à la même vitesse, d'ici 2025, on parle de 10% de la population chinoise qui serait chrétienne. C'est plus de 175 millions de Chinois. C'est plus de chrétiens que le nombre d'Américains qui disent être chrétiens. Et cette réalité-là se manifeste en Amérique latine, se manifeste en Asie, se manifeste en Afrique, d'accord? Alors, c'est juste pour dire que cette lumière-là entre, elle est accueillie, il y a des hommes qui la reçoivent, qui réalisent qu'ils ne peuvent pas trouver cette lumière-là en eux-mêmes. Et ils s'ouvrent à cela, même si en Occident, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Mais ça demande cette humilité d'accepter de m'examiner puis de reconnaître qu'il y a des ténèbres en moi. Et personnellement, je suis super heureux. À chaque semaine, j'ai des conversations avec des gens qui sont en train de s'ouvrir à cette idée-là. Littéralement, à toutes les semaines, je parle avec quelqu'un et je vois dans leurs yeux, dans leurs réflexions, dans nos échanges, cette lumière-là est en train de venir les éclairer. Ils réalisent que cette lumière-là vient de Christ. Donc, c'est possible. C'est possible de recevoir cette lumière-là. Mais la question essentielle pour tous les hommes, c'est est-ce que je suis prêt à être éclairé? Est-ce que je suis prêt à ce que quelqu'un d'autre allume la lumière pour venir éclairer mes ténèbres ou non? Il revient à chacun de nous de prendre le temps d'aller examiner les parts d'ombre dans notre vie, puis de dire, est-ce que c'est vraiment la société qui m'a rendu comme ça, ou est-ce que c'était pas tout en moi, ça, bien latent, bien présent? Puis en fait, mes moments où je suis le plus méchant, ça vient vraiment de moi. Ça vient pas de quelqu'un d'autre, puis c'est pas de la faute du gouvernement, ou de mon voisin, ou de ma blonde, ou de ma femme, ou de mon boss. Ça vient, dans le fond, de l'intérieur de moi, puis je peux vraiment être mean, je peux vraiment être vicieux comme personne. Et c'est à chacun de nous de prendre le temps de regarder ça. C'est vrai pour les chrétiens, hein? Je suis pas en train de pointer du monde du doigt ici. Comme chrétien, chaque matin quand je me lève, je dois prendre le temps de m'arrêter puis de dire, est-ce qu'aujourd'hui je ressens le besoin d'être éclairé par une lumière extérieure, par la lumière de Christ à travers sa parole? Est-ce que je réalise que j'ai besoin encore aujourd'hui juste de recevoir cette lumière-là? Puis est-ce qu'il y a des conflits dans ma vie? Est-ce qu'il y a des situations dans ma vie où il manque cette lumière-là qui vient de Dieu, puis j'essaie de tout régler ça par moi-même, par mes propres forces, avec des fois des motifs qui sont très, très, très discutables. Donc, c'est une question qui est quotidienne, ça demeure toute la vie. Et puis, qui voudrait rester dans les ténèbres, sérieusement? Je sais qu'il y a une fascination, hein? On a vu, je l'ai mentionné il y a quelques mois, c'est vraiment intéressant d'étudier juste en littérature, mais dans la culture populaire, la transformation du héros. Vous savez que j'aime les super-héros, hein? Un jour, je raconterai ça. Mais Juste la transformation du héros qui, avant, était comme c'est une image très, très christique du héros. C'est comme Superman, il est parfait, il n'y a pas vraiment de faute, il y a des petites lacunes, mais c'est un paladin, c'est un être droit. Puis progressivement, on a vu à travers les années 60, 70, on a vu le héros devenir plus humain, qui nous ressemble un petit peu plus imparfait. Puis après ça, ce héros-là, puis vous ferez juste, faites une recherche cet après-midi sur Internet, puis cherchez Batman à travers les années. Je veux dire, à la fin, vous comprenez, il est en train de noyer sa peine dans l'alcool, il est complètement pathétique, noir, il n'y a plus aucune lumière dans ce personnage-là, parce qu'il va plus loin que nous, c'est le dépressif chronique, qui croit même plus dans la possibilité de justice, parce qu'il sait bien que lui-même est tout croche autant que la société. Et donc, il y a une fascination pour les ténèbres dans notre société. Il y a quelque chose de cute là-dedans, d'accord? C'est romantique, il y a quelque chose de « wow, c'est intense, moi j'ai quelque chose de ténébreux. » Non, mais pour de vrai, là, imagine qu'il n'y a pas de lumière dans l'univers. Tu veux parler de ténèbres, on va parler de ténèbres pour de vrai. Il n'y a pas de lumière, absence de lumière totale, complète. Il y a des gens qui sont comme ça, sont aveugles, mais complètement aveugles. Je connais personne, j'ai rencontré personne à date qui a dit au fond de son cœur, « Moi, mon plus grand souhait, ce serait d'être aveugle. Parce que la lumière, c'est pas pour moi, ça. Je suis un être de ténèbres. » C'est cute, c'est romantique, mais c'est pas la réalité. La lumière est tellement belle. La lumière est tellement belle, on a besoin de la lumière. La lumière manifeste la beauté, elle permet de discerner les formes. Si ça vous tente de faire un petit peu de recherche, cet après-midi, vous chercherez... j'oublie le nom de l'artiste. La liseuse, d'accord? De Little Girl Who Reads, je crois. C'est un sculpteur italien. Je pense que c'est la sculpture qui m'a le plus ému. Je l'ai vue deux fois dans ma vie. Il y a une dizaine d'années, j'étais allé à Washington. Elle est là-bas, au Musée des Beaux-Arts. Et cet été, on a eu le privilège d'y retourner avec la famille. J'en parle, puis je suis encore rempli d'émotions. Je ne sais pas pourquoi, des fois, on dirait que les sculptures me touchent plus parce que je vois ce jeu-là de lumière sur ces formes-là, puis ça vient m'émouvoir d'une manière particulière. C'est un peintre français, Gilles Genty, qui a dit « La seule matière de la peinture, c'est la lumière. » La seule matière de la peinture, c'est de la lumière. La lumière définit la beauté, la lumière donne du discernement, la lumière vient éclairer. La lumière, c'est la vie. Pensez au soleil. C'est notre vie. Puis lorsqu'il disparaît un peu trop, on s'invente des lampes pour avoir un peu plus de lumière qui vont nous aider parce qu'on a besoin de lumière. Parce que tout notre mental est déréglé juste parce qu'on manque de lumière physique. Et comme si la lumière n'était pas assez suffisante, la lumière naturelle, on a inventé la lumière artificielle. Puis comme moyen de communication au cœur de ce qu'on fait le plus pratiquement dans une journée, on regarde des écrans lumineux pour communiquer. C'est au cœur de nos vies. Imaginez un univers sans lumière. Maintenant, quand on arrive dans ce passage-là, dans Jean, au début, Jean parle du Christ, du Logos, comme étant le créateur du monde, d'accord? Le Logos est au début, il crée, c'est par la parole que Dieu crée. Ensuite de ça, il va dire, au début, ce Logos-là, le Christ, est aussi la vie, c'est de lui qu'origine toute vie. Puis il dit, la vie était la lumière. Et là, il s'en va tranquillement, on s'en va vers quelque chose d'autre. Parce que si le Logos est là au moment de la création, le Logos est venu sur la terre. Et plus on avance dans l'évangile de Jean, lorsque Jean va parler de la lumière, il parle de la lumière que Christ a apportée en s'incarnant, en devenant un être humain qui a marché parmi les hommes et qui est arrivé avec un message. Et donc, plus on avance dans l'évangile de Jean, on réalise que la lumière dont il est question, c'est une lumière métaphorique, c'est une image qui est inspiré de la lumière bien visible qu'on peut voir, mais ça parle d'une lumière qui doit venir à l'intérieur de nous. Et on réalise à ce moment-là que cette lumière-là ne vient pas d'ici. Jean 1,4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La vraie lumière n'est pas d'ici. Un peu de la même manière que le soleil, c'est pas la terre, Ça vient d'ailleurs, un petit peu de la même manière. Dans Jean 1,9, voici ce que Jean dit. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, en venant dans le monde, donc elle n'est pas d'ici. » Pour ça, je vous dis, j'ai besoin d'accepter qu'il y a une part de ténèbres en moi et que je ne vais pas trouver la lumière en moi-même. C'est à contre-courant, je suis conscient de ça. C'est comme si je venais de dire une ineptie parce que je venais juste de te dire que tu n'es pas Dieu. Je suis désolé. Mais comprendre le christianisme, c'est réaliser cela. Et recevoir la lumière de Christ, c'est accepter cela. La lumière ne vient pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Je vous relis le passage dans Ésaïe 9:1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Un petit peu plus loin dans le passage, je veux juste vous donner une illustration, d'accord? Un petit peu plus loin dans le passage, on voit qu'il s'agit vraiment du Messie. Ésaïe 9:5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il vient d'ailleurs, et la domination reposera sur son épaule. » Maintenant, il est énorme ce fils-là, on va en parler la semaine prochaine. Mais voici ce que Ésaïe dit en continuant. « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Je veux attirer votre attention juste sur un des titres qui est donné au Christ. Conseiller. Conseiller. Accepter le vrai sens de Noël. Accepter que la lumière n'est pas en moi, mais elle vient en moi d'ailleurs, c'est accepter que je ne suis pas mon propre conseiller, mais que j'ai besoin d'un autre conseiller qui est divinement sage, au-delà de toute ma sagesse. C'est pas que tout ce que je dis, c'est con, puis je suis un insensé fini, même si des fois. Mais il est conseiller, il est parfait, et il vient pour me conseiller. Et donc, la beauté d'accepter Noël, de le reconnaître, de le saisir, de le vivre, c'est que j'accepte que la lumière vient de l'extérieur et elle vient vers moi. Elle n'est pas en moi. Et j'accepte d'être conseillé sur mon chemin dans ma vie. Encore une fois, c'est vrai pour tout le monde. Je pointe personne du doigt ici. J'ai besoin, moi, comme chrétien, chaque matin, de me poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un conseiller extérieur à moi? Vous savez, lorsque dans la semaine, il arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui t'envoie une vacherie, quelque chose de blessant, d'offensant. Puis à un certain moment donné, il y a un discours qui commence à naître dans ta tête. Discours de victime, tu sais, c'est... Puis là, ce discours-là justifie toutes sortes de choses, tu sais. Ça commence à ruminer dans ta tête, puis là, tu commences... C'est ça, c'est toujours moi qui me retrouve à toujours faire ça. Puis ça va, ça s'en va comme ça dans ta tête. Puis de plus en plus... L'autre est plus important, c'est vraiment... S'il est important, il est important pour tous les torts qu'il a. Puis de plus en plus, la personne qui est importante, c'est moi. Mais comme chrétien, j'ai besoin, à tous les jours, d'examiner mon cœur pour dire, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que les ténèbres sont en train de s'installer là? Est-ce que j'en ai de ces dialogues-là, de ces monologues-là intérieurs qui sont en train de rouler dans ma tête? Est-ce que j'ai besoin de retourner vers Christ, retourner vers la grâce? Jean va dire un petit peu plus loin, il va dire, Moïse nous a donné la loi, Jésus-Christ nous a donné la grâce et la vérité. Et j'ai besoin à ce moment-là que Christ soit mon conseiller pour que la grâce et la vérité viennent parce que je commence à déformer la vérité. Je commence à déformer les faits, je commence à devenir la victime, à devenir le justicier, à devenir celui qui va aller rétablir les choses, celui de qui on abuse toujours. Puis j'ai besoin de grâce et de vérité. J'ai besoin de la lumière de Christ, encore une fois. Voyez-vous, j'ai besoin de mon conseiller qui me ramène dans la vérité, qui m'aide à voir ma part de tort puis la part de tort de l'autre ou ses responsabilités. Mais ça me demande d'accepter que la lumière vient de l'extérieur. Et c'est ça qui conduit Jean à dire que la vraie lumière qui éclaire l'intérieur, c'est Jésus-Christ. La vraie lumière qui éclaire l'intérieur, c'est Jésus-Christ. Je vous lis un passage un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 4, 6 et 7. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, elle peut être là dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on va connaître Dieu? sur la face de Christ. Dieu s'est fait connaître en reflétant sur la face de Christ. Et lorsque je crois dans le Christ, lorsque je le suis, cette lumière réfléchie sur sa face pénètre en mon cœur. Elle vient habiter dans mon cœur. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Je reconnais que je suis pas un vase en or et parfait. Je suis un être fragile avec sa part de ténèbres et de noirceur, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça me demande d'accepter humblement un présent. Pour recevoir ça, ça me demande d'accepter humblement un présent. Une année, j'ai reçu un cadeau à Noël. Ça fait très, très, très longtemps. C'était un livre. Et lorsque j'ai déballé ce livre-là, c'est un livre de psycho, puis la personne voulait me communiquer un message. Puis honnêtement, je l'ai très, très mal reçu. Imaginez que cette année, à Noël, vous avez un problème de surpoids. Tu sais, un 100 livres de trop. C'est quand même un bon problème de surpoids. Puis, les gens autour de vous vous aiment beaucoup, beaucoup. Ils aimeraient ça que vous soyez avec eux pour une trentaine d'années encore, sans pousser votre chaise roulante nécessairement pendant les 25 dernières années. Fait qu'ils ont à cœur vos jointures, ils ont à cœur votre santé, tout ça. Ils ont essayé comme de vous en parler. Puis, une bonne idée comme ça décide de vous donner pour Noël. Et puis, ce qu'on va faire, juste pour vous situer, moi, j'étais à 5 minutes de terminer. Donc, je vais faire une toute petite conclusion, 2 minutes. On va aller dans un mot de prière, puis on va faire le programme musical intégralement, parce qu'on pense que c'est ça qu'on a besoin de vivre comme émotion à ce moment-ci, avant de prendre un repas ensemble. Donc, évidemment, ça décale un petit peu le programme, là. On s'en excuse, mais vous comprendrez dans les circonstances, c'était vraiment la bonne chose à faire. Ça va comme ça? On va louer le Seigneur, puis cette semaine, on va garder M. Fournier dans nos prières. Écoutez un passage en terminant dans Jean 8, 12. C'est Jésus lui-même qui dit ceci. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et lorsqu'on veut saisir c'est quoi Noël, on a besoin de prendre conscience que Jésus est incomparable. Jésus a apporté une lumière dans le monde parce qu'il était lui-même cette lumière-là dans le monde. Et ce n'est pas simplement une métaphore, ce n'est pas des paroles pour que les chrétiens lèvent leurs mains dans les airs et vivent des beaux sentiments religieux. La réalité, c'est qu'on a une part de ténèbres en nous, une part d'ombre en nous. Elle est réfléchie dans le monde, on la voit partout dans le monde à travers toutes sortes de mots sociaux. Et on a besoin, chacun d'entre nous comme être humain, de recevoir cette lumière-là. Puis cette lumière-là, ce n'est pas simplement des concepts, des idées, une philosophie qui va venir comme mettre de l'ordre. Vous comprenez, un système qui va mettre de l'ordre dans mes idées. C'est beaucoup plus que cela. C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on va voir ensemble en quoi il est unique, le Fils unique de Dieu. Et ma prière pour vous, c'est que cette année aux fêtes, et pendant les chants qu'on va chanter, là, nos cœurs soient vraiment dans l'adoration. Que pendant les fêtes, on puisse s'arrêter pour réaliser comme chrétiens que bien souvent, on néglige de commencer notre journée, d'inviter dans notre journée, d'inviter Christ qui nous apporte la lumière dans nos conflits, dans nos défis, dans nos inquiétudes. On a besoin qu'il soit là. Parce que c'est lui la vie, comme on l'a dit la semaine dernière. Nos enfants ont besoin qu'on leur raconte l'histoire de Noël, pas simplement comme un conte, mais comme le cœur de leur bonheur qui se trouve là, disponible pour eux. Nos familles et nos amis ont besoin qu'on ose dire, avez-vous la moindre idée ce que c'est vraiment le sens de Noël? Parce que cette année, comme chaque année à Noël, il y a des gens qui vont recevoir ce présent-là, dans leur vie, dans leur cœur. Ils vont commencer l'année 2017 avec cette naissance nouvelle-là, cette vie nouvelle-là qui est en eux, parce qu'une lumière est entrée au milieu de leurs ténèbres. Et qu'ils apprennent, comme nous les chrétiens, ils apprennent à marcher progressivement dans la lumière. avec Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Seigneur, nous voulons élever ton nom dans nos cœurs. C'est bon pour nous, Seigneur, de réaliser notre humanité, de réaliser notre fragilité. On est encore, personnellement, je suis encore sous le choc, Seigneur, de ce qu'on vient de vivre. Mais Seigneur, c'est ça qu'on est, des êtres fragiles. Et on a tellement besoin de toi. Seigneur Jésus, merci d'être venu à Noël. Merci de t'être incarné, d'être devenu un homme et d'avoir porté ce message de vérité, de grâce et de vérité qui a bouleversé le cours de l'humanité et qui continue à apporter de la lumière dans des cœurs par milliers, par dizaines de milliers, Seigneur, dans la période des fêtes à travers le monde. Et notre prière, c'est que tu sois bien présent dans nos cœurs comme chrétiens et qu'à toute personne, Seigneur, qui n'a pas encore reçu cette lumière-là dans son cœur, tu lui accordes ce présent-là cette année pendant les fêtes, de recevoir et de connaître Jésus-Christ. Amen.